Bonjour. Hier avec Jacqueline, on a été voir un spectacle, Jésus, de Nazareth à Jérusalem. Vous savez, le spectacle d'Obispo. Beau spectacle. Qui en 1h30 de paroles et de musique et de danse éventuellement, relate la vie du Christ. Alors avec beaucoup d'approximations par rapport au texte. Et une en particulier, c'est que ce spectacle passe complètement sous silence le pourquoi de la venue du Christ. Il occulte la portée de son œuvre. Mais j'imagine que le spectacle n'a pas été fait pour ça. Alors je ne vais pas vous parler de ça ce matin. Je veux vous parler ce matin de la famille de Dieu, qui somme toute est la conséquence de l'œuvre de Christ. Alors la famille de Dieu, quand on parle de l'Église, famille de Dieu ou corps de Christ, on peut trouver bien des analogies entre ces images. D'abord, la famille est composée de membres, tout comme le corps. Et quand un membre souffre, dans le corps comme dans la famille, tout le corps souffre. La famille aussi a une tête, un chef. Le chef de famille, comme le corps, a une tête, un chef. On ne dit pas le couvre-chef pour le chapeau. Et dans la famille, comme dans le corps, les membres n'ont pas tous les mêmes fonctions, ni les mêmes compétences. N'en déplaise à nos bien-pensants qui disent que l'homme et la femme sont interchangeables. A-t-on déjà vu un homme mettre au monde un enfant ? Alors, si nous disons faire partie de la famille de Dieu, ça implique quoi pour nous ? Alors pour commencer, on va lire quelques textes. D'abord dans Marc, Marc 3, versets 33 à 35. C'est au début du ministère du Christ. Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Puis on va prendre Romains 8, au verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. » Puis enfin, le psaume 68, au verset 6, « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Alors, si nous disons que l'Église est le peuple de Dieu, son corps, sa famille, comment réagissons-nous à cela ? Est-ce important pour nous ? La notion de peuple de frères et sœurs en Christ revêt-elle une réelle importance à nos yeux ? Et comment cela se concrétise-t-il dans nos relations ? Ça fait bien des questions tout ça. L'expression d'amour fraternel est devenue banale dans nos milieux, comme tant d'autres expressions d'ailleurs. Et peut-être elle perd de son sens profond, si bien que la réalité elle-même, elle aussi est devenue banale. Et nos relations risquent fort de l'être aussi. Alors j'espère que le retour de ce que la Bible dit au sujet de la fraternité nous permettra de redécouvrir et de vivre une dimension de cette fraternité riche et enrichissante pour tous. Alors, comment comprenons-nous l'expression « famille de Dieu » ? Or, il y a un sondage qui a été fait il y a quelques années sur la manière de réagir de deux peuples différents, les Japonais et les Américains. Et je suis sûr que les réponses des Américains ressemblent un peu aux nôtres. La question était, comment les gens se consolent-ils au milieu des difficultés ? Alors, pour les Japonais, presque toujours, ils disent, « Je pense que ma famille m'est d'une aide. J'imagine qu'elle est avec moi. » La réponse des Américains était, « Je peux surmonter cette épreuve si je redouble d'efforts. » Vous savez, les Américains, « Aikan, je peux. » Et comme les Américains, je pense que nous vivons dans une culture qui met davantage l'accent sur l'individu que sur le groupe. Alors, comment concevons-nous la vie de l'Église ? Sous l'aspect individuel ou sous l'aspect communautaire ? Petit test. Est-ce important pour vous d'arriver avant le début du culte et aimez-vous rester après ? Ou arrivez-vous juste à l'heure en repartant rapidement à la fin ? Autre test, pour quel sujet priez-vous ? Est-ce des sujets en relation avec vos besoins qui remplissent vos prières ? Ou y a-t-il une place pour votre famille dans la chair, mais aussi votre famille spirituelle proche ou éloignée ? Et est-ce que quelquefois le sens des termes est inversé ? Vous pensez d'abord à votre famille spirituelle. Et cela révèle une priorité. Est-ce qu'en fait je ne transforme pas le « notre Père qui est aux cieux » en « mon Père qui est aux cieux » ? Deux exemples. Comment comprenons-nous Paul quand il dit aux Corinthiens de s'examiner avant de prendre le repas de la scène ? Vous savez que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe. Qu'il s'examine par rapport à quoi ? À quel point ? Probablement en pensant à notre état, à nos péchés personnels. Mais si vous remarquez bien, Paul, avant et après ce verset, parle surtout de nos rapports aux autres. Alors ne veut-il pas dire, sommes-nous conscients que nous partageons ce repas avec nos frères et sœurs, avec nos frères et sœurs qui sommes ensemble unis grâce à l'œuvre de Christ ? Si nous en sommes conscients, c'est bien. Sinon, peut-être vaudrait-il mieux réfléchir avant de prendre ce repas. Un autre exemple. Vous souvenez-vous de Akan ? Vous savez qui c'était Akan ? Oui ? C'est un membre du peuple d'Israël et pendant la conquête du pays, il a commis une faute. On lit ça dans Josué 7. Au verset 1, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Rhin, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. La faute d'Akan, à votre avis, c'est une faute individuelle ou une faute communautaire ? Akan faute, et l'Éternel se mit en colère contre le peuple. Étonnant, non ? C'est l'ensemble des Israélites, et non l'individu, même si c'est lui le fautif, qui est considéré comme coupable aux yeux de Dieu. Alors ces situations révèlent notre mentalité, la priorité de notre mentalité. Soit c'est l'individu qui prime, soit c'est le groupe, la famille. Et nous sommes dans une société où c'est l'individualisme qui prime. C'est lui qui détermine trop souvent notre approche du corps de Christ. Le moi est prioritaire au nous. La notion de frère a perdu de son importance. L'important, c'est de vivre une relation personnelle avec Dieu. Je viens au culte pour ça. Et c'est peut-être pour cela que je ne vis plus dans l'Église et que beaucoup de chrétiens sont isolés. C'est la relation à Dieu qui est essentielle. On n'est pas protestant pour rien, hein. Mais nous oublions peut-être ce que Dieu veut. Comment Dieu définit-il les frères et sœurs dans la Bible ? Le mot frère est significatif, on pourrait le traduire par sorti d'une même matrice. Son frère, ceux qui sont nés d'une même mère, d'un même créateur. Alors mes sœurs, excusez-moi, je ne pratique pas encore le langage inclusif. Le mot frère est générique, bien sûr. Il désigne avant tout ceux, hommes et femmes, qui ont été conçus du même père. Le mot sœur est souvent employé dans la Bible pour parler des sœurs de Jésus, des liens humains dans la famille. Les frères et donc les sœurs sont ceux qui sont issus du même sang, qui partagent les mêmes gènes. Son frère, ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre de Christ. Il a donné son sang, il est mort à notre place. Il nous permet ainsi d'être réconciliés avec Dieu notre Père qui nous fait naître à sa vie. La mort de Jésus et la nouvelle vie que Dieu nous donne sont liées. C'est bien cela qui fait de nous des frères et des sœurs. Christ est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. C'est Paul qui dit ça aux Corinthiens. Une des conséquences, c'est que cette relation transcende nos différences sociales ou raciales. Et au Galates, il dit « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu ». Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Alors oui, nous sommes unis les uns les autres parce que nous sommes tous nés du même Père. Et ce lien est plus fort que tout. C'est une belle affirmation, ça, mais est-ce que c'est vrai ? La position de Jésus à ce sujet est sans équivoque. Elle peut même nous paraître choquante. La mère de Jésus, ses frères et sœurs viennent le rencontrer. Il répond : Qui sont ma mère et qui sont mes frères ? Et c'est là qu'il dit, Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Alors, est-ce que nous nous rendons bien compte du privilège d'être appelés frères et sœurs de Jésus, de Christ? Il est devenu notre frère dans le sens qu'il a pris notre condition humaine. Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Alors malgré ce que nous avons été, ce que nous sommes toujours et ce que nous serons, le Seigneur nous appelle devant toutes les autorités spirituelles, ses frères. Mais cette notion de frère est rattachée au fait de suivre la volonté du Seigneur. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui est pour moi un frère. C'est pour cela que ceux qui enseignent une autre doctrine que celle de l'Évangile, ainsi que ceux qui s'opposent aux chrétiens, sont appelés faux frères par Paul aux Galates. C'est dans le chapitre 2 au verset 4. À cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alors malheureusement, tous ceux qui se rattachent à une église ne sont pas des frères, parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Alors si nous voyons que Jésus, dans l'ordre de priorité, met d'abord la famille spirituelle, ne croyons pas qu'il nous enseigne d'abandonner notre famille biologique pour autant. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Mais ce que Jésus veut nous dire, c'est que les liens spirituels sont selon lui une priorité par rapport aux liens charnels. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est pas une opposition, c'est juste une histoire de priorité. Jésus veut nous montrer par là l'importance essentielle de la famille de Dieu. Et puis l'amour pour Dieu est lié de façon automatique, pourrait-on dire, aux relations entre frères et sœurs. Si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je ne pense pas que ce soit une option. Alors, la question c'est comment vivre cette dimension de frères et de sœurs en pratique. Comment avons-nous, cette semaine, manifesté ce lien avec les frères et sœurs de l'église locale ou de l'église plus éloignée? Si dans l'église nous avons été blessés par quelqu'un ou contrariés, est-ce que notre réaction a été: cette personne m'a fait du mal, alors je vais peut-être me séparer de l'Église. L'individu prédomine souvent, alors au détriment de l'ensemble qui disparaît facilement. Alors le problème, c'est que je considère que l'amour que je manifeste à travers ce que je fais, alors qu'avant tout, cela devrait se vivre à travers la manière dont je considère l'autre, pas ce que je fais, ce que je considère. Ma réaction sera bien différente si je considère l'autre, non pas comme un membre de mon club, enfin de mon église, ou si je le considère comme un frère. Déjà, ma salutation sera différente. La parabole du fils prodigue parle des liens existants entre les deux frères. Leur relation était perturbée, perturbée par la jalousie. Et en amont, la relation du fils aîné avec le père en a été faussée. L'a été là aussi parce qu'elle était basée sur le faire, sur les œuvres. L'histoire de Caïn qui finit par tuer son jeune frère Abel parle aussi de cette jalousie. Sa réponse de Dieu est-elle justifiée quand il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Certainement pas. La notion de fraternité comporte toujours une dimension de solidarité et de responsabilité mutuelle. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette petite fille thaïlandaise qui portait son jeune frère sur le dos ? Et quand on lui a demandé si son fardeau n'était pas trop lourd, vous savez ce qu'elle a répondu ? Vous ne savez pas ? C'est pas un fardeau, c'est mon frère. Alors si je ne supporte pas certaines personnes, est-ce que je les considère vraiment comme mes frères ? Alors la mauvaise compréhension de cette responsabilité mutuelle tourne souvent en tension et en conflit. Lorsque je conçois ce lien de fraternité vis-à-vis de moi, les frères doivent assumer ce devoir d'amour en répondant à mes désirs, à mes besoins. Paul donne la priorité. Ne restez pas redevables en rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Alors le risque que nous avons, c'est de créer ou de modifier un commandement. Aimez-moi les uns les autres. Je peux utiliser les autres, mes frères, pour que je me sente mieux dans ma peau. C'est une stratégie qui favorise l'individualisme, mais qui inverse le désir de Dieu. Avant tout, je suis appelé à aimer mes frères et sœurs. Et Paul montre qu'on ne doit pas abuser de cette nouvelle dimension fraternelle, que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères. Bien au contraire, qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés. Être frères et sœurs est indissociable de l'humilité et de la notion de service pour l'épanouissement de tous, des autres en premier. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Le fait de prendre conscience de ce lien surnaturel qui sont ceux qui unissent ceux qui ont Dieu pour Père et Jésus-Christ pour frère, et de le vivre concrètement sont une bénédiction profonde. Le psaume 133 parle de cette réalité. Oh, quel plaisir c'est pour les frères et quel bonheur d'être ensemble. Et le psalmiste ajoute à ce plaisir la bénédiction de Dieu. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Cette bénédiction rejaillit de près à loin. La montagne de l'Hermon, c'était une montagne boisée, riche en végétation. Et la rosée qui tombe sur cette montagne descend jusqu'au mont Sion, une colline qui est plus sèche, voire aride. Alors l'unité fraternelle est une bénédiction en elle-même et une source de bénédiction. Or, pour conclure et pour garder quelque chose pour cette semaine, faisons nôtre la recommandation de Jean. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen.